Vous écoutez Libre Propos sur Radio Grand Ciel avec Karine Delamer. Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Grand Ciel. Dans ce libre propos, j'accueille Didier Gougis, responsable de la formation continue du diocèse de Chartres. Didier, bonjour.
Bonjour Karine.
Didier, je vous ai demandé de venir parce que à partir du premier dimanche de l'Avent, on va changer la récitation du Notre Père. Plus exactement, l'avant-dernière demande du Notre Père va changer. Et à cette occasion, j'aimerais qu'on prenne le temps de redécouvrir ce que c'est que le Notre Père. On le dit d'une manière un peu mécanique et finalement ce sont des demandes, des supplications qui sont bien précises et j'ai trouvé intéressant que pour nos auditeurs on puisse avoir un peu plus de fond. Alors est-ce que déjà vous pourriez nous expliquer exactement ce qui va se changer dans le Notre Père ?
Alors comme vous l'avez précisé, c'est l'avant-dernière demande et ne nous soumet pas à la tentation que l'on a changé, et, enfin qui va changer, qui va devenir, ne nous laisse pas entrer en tentation. Je sais que le père de Tilly, qui fait partie de l'équipe pastorale liturgique et sacramentelle, viendra parler plus spécialement de ce changement. Mais ça va être un changement qui va prendre du temps à entrer dans nos habitudes, dans notre manière de faire, qui précise en fait ce que veut dire cette demande. C'est évidemment pas Dieu qui nous fait entrer en tentation. Ça pouvait prêter à confusion, ne nous soumet pas. On pouvait penser que c'était Dieu qui nous soumettait à la tentation. Or, c'est pas du tout ça. Bien sûr, ne nous laisse pas entrer en tentation est beaucoup plus dynamique et beaucoup plus précis. Donc, j'en dis pas plus là-dessus, mais c'est ça qui va changer.
Alors, si on recommence depuis le début.
Oui.
Notre Père qui est aux cieux. Je crois que déjà avec ça, on peut tenir une bonne émission.
Eh bien oui, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Alors, je précise que je me suis reporté à deux sources, évidemment, la Bible et les évangiles, et puis le catéchisme de l'Église catholique qui consacre son dernier chapitre uniquement à Notre Père. Il y a beaucoup de choses très intéressantes, notamment, il cite beaucoup de pères de l'Église, j'en ferai quelques citations. Alors, le Notre Père nous vient évidemment des évangiles, et il y a deux versions du Notre Père dans les évangiles, une en Matthieu et une en Luc, qui ne sont pas tout à fait identiques. Hein, celle de Matthieu, c'est la plus complète, ça correspond grosso modo, presque mot pour mot, au Notre Père que nous disons dans les différentes occasions. Celle de Luc est plus courte, il y a moins de demandes, et elle commence par Père et non pas Notre Père, ce qui est une différence importante. Voilà, donc je vais m'arrêter surtout sur celle de Matthieu, puisque c'est celle qui est à l'origine de notre prière chrétienne. Alors Matthieu, ça se situe dans le chapitre 6, c'est dans le sermon sur la montagne. Hein. Jésus est en train de donner ce sermon sur la montagne. Il a quelques versets avant prononcé les béatitudes, hein, qui est aussi un cœur de notre foi chrétienne, comme notre Père va le devenir. Et donc sur la montagne, Matthieu met en scène Jésus qui donne son enseignement, l'enseignement de Jésus. Et donc au cœur de cet enseignement, on a la prière du Notre Père. Alors Jésus n'a pas inventé complètement le Notre Père. Il était juif, il était dans un environnement bien entendu de tradition juive, des écritures, etc. Et donc il a emprunté cette prière beaucoup à ce qui était la prière des juifs de son époque et encore la prière d'aujourd'hui. Notamment deux prières, le Kaddish, qui est une prière au cœur de la foi juive, et puis le Shemoneh Esseh, c'est 18 bénédictions. Alors, il y en a moins dans Notre Père, mais il s'inspire de ces prières-là et évidemment de l'écriture des Écritures de l'Ancien Testament. Mais il va leur donner à ces demandes, les mettre en forme et leur donner une dimension nouvelle. Ce qui est fondamental de bien noter, c'est que cette prière, elle nous est donnée par Jésus. Hein. C'est comme une école de prière, puisque dans Luc, les disciples demandent à Jésus, apprends-nous à prier. Et c'est à ce moment-là qu'il donne le Notre Père. Dans Matthieu, c'est différent, c'est dans le discours sur la montagne, mais c'est dans le même esprit. Il nous apprend à prier par cet Notre Père. Donc le Notre Père, c'est en même temps une prière et une école de prière. Bien sûr, c'est Jésus qui est le maître de notre prière.
Et donc c'est Jésus qui dit Notre Père.
Voilà, quand il dit, quand vous priez, dites Notre Père. Mmh. Voilà, c'est comme ça qu'il dit. C'est aussi la prière de l'Église, évidemment. La prière de l'Église qui est utilisée dans plein d'occasions hein, de la liturgie de l'Église, que ce soit dans les Eucharisties, les sacrements, la prière des heures, la prière personnelle, etc. Je vous cite Saint Jean Chrysostome qui dit quelque chose de ça. Le Seigneur nous apprend à faire nos prières en commun pour tous nos frères. Car il ne dit pas « mon Père qui est dans les cieux », mais « notre Père », afin que notre prière soit d'une seule âme pour tout le corps de l'Église. Voilà. Donc c'est ce « notre Père », c'est la prière de l'Église d'une seule âme, comme dit Saint Jean Chrysostome. Alors maintenant, je vais m'arrêter aux différentes parties. Hein. On a dit, comprenez, ce matin, « notre Père qui est aux cieux ». Alors, « notre Père » d'abord. Et dans notre Père, il y a deux choses. Il y a Père et Notre. Notre et Père. Et on va commencer par Père, parce que c'est dans Luc, hein, il donne la prière Père. Alors, dire Père, c'est déjà entrer dans le mystère de Dieu. Père. C'est un terme qui est déjà présent dans l'Ancien Testament. Jésus n'est pas le premier à utiliser ce mot Père pour désigner Dieu. Mais par contre, dans l'Ancien Testament, cette appellation, on la trouve parmi beaucoup d'autres. Hein, le pasteur, le roi, le rocher, l'époux surtout. L'époux, sujet de l'alliance. Et avec Jésus, Père, ça devient le terme quasi exclusif pour désigner Dieu. Hein. Père, notre Père, et même Abba, Papa.
Mais alors voilà, justement, le Abba, il n'y a que Jésus jusqu'ici qui l'a utilisé.
Ça c'est la grande nouveauté, c'est que Jésus a une telle intimité avec Dieu le Père qu'il l'appelle Papa. Voilà, c'était inconcevable dans l'Ancien Testament. Alors cette figure du Père, moi j'aime bien me la représenter comme celle de la figure de la parabole du fils prodigue. Ce Père qui est Père quoi qu'il arrive. Hein. Quoi qu'on fasse, nous, on oublie qu'on est fils mais lui, ou fille, mais lui n'oublie jamais qu'il est Père. Et donc, il nous attend toujours, il attend toujours notre retour. Il est le Père qui a son cœur ouvert pour nous pardonner et pour nous aimer. Donc, cette appellation privilégiée par Jésus, qui est lui-même le Fils par excellence. Hein. Et donc, Jésus nous fait entrer par cette appellation, hein, Père, notre Père, nous fait entrer dans cette intimité même qu'il a avec le Père, l'intimité de Dieu, la Trinité, le cœur de la Trinité. Déjà, cette première parole... C'est comme une bénédiction d'adoration, c'est comme une contemplation, une source de contemplation, avant de faire des demandes qui vont suivre. Je contemple le Père.
Et je me reconnais comme fils.
Et je me reconnais comme fils. Alors nous sommes révélés à nous-mêmes, c'est ça, comme fils. Alors saint Ambroise dit d'une manière très belle la chose suivante. Ô homme, tu n'osais pas lever ton visage vers le ciel. Tu baissais les yeux vers la terre et soudain tu as reçu la grâce du Christ. Tous tes péchés t'ont été remis. Du méchant serviteur, tu es venu un bon fils, devenu un bon fils. Lève donc les yeux vers le Père qui t'a racheté par son Fils et dis « Notre Père ». Mais ne te réclame d'aucun privilège, il n'est le Père d'une manière spéciale que du Christ seul, tandis que nous, il nous a créés. Dis donc aussi, par grâce, « Notre Père » pour mériter d'être son Fils. Voilà. On est comme des enfants, des tout-petits, hein, que Matthieu met beaucoup en avant hein, dans son évangile, humble et confiant, dans les bras du Père. Alors, notre Père, hein, notre Père, comme je le disais tout à l'heure, le nôtre, il est absent chez Luc. Mais ça porte donc une dimension différente dans trois directions. Parce que notre Père, on a ce nôtre, il nous met en commun avec le Christ, le Fils. Notre Père, c'est le Père du Fils, du Christ et de nous. Le Père de Jésus devient notre Père, par le baptême notamment. Et puis, il nous met en communion avec les baptisés, nos frères. Ensemble, en Église, nous disons notre Père. C'est la communion de l'Église, la communion ecclésiale. Et puis, plus largement, il nous met en symbiose avec l'humanité tout entière, que Dieu veut sauver. Dieu veut sauver tout le monde, toute la terre tout entière. Donc on dilate en disant notre Père, on dilate notre prière en largeur d'amour.
En universitaire, c'est l'idée.
Voilà. Alors qui est aux cieux ? Ben oui, notre Père, qui est aux cieux ? Alors les cieux, évidemment, c'est pas le lieu. Hein. On sait bien que notre Père et Dieu n'est pas dans les nuages. Mais c'est une manière d'être dans les cieux, c'est-à-dire en majesté. Mais aussi
au-dessus de nous.
Voilà, il est au-delà de tout, plutôt. Il est il dépasse toute dimension. C'est ce symbole du ciel. Le ciel, il nous englobe, il nous dépasse, on ne peut le saisir, mais il nous attire. Voilà, c'est un fonctionnement symbolique de dire que Dieu est au ciel ou aux cieux. Et on a une tension d'ailleurs entre ces deux appellations, Père qui est aux cieux, oui. Puisque le Père c'est celui qui est proche par excellence, celui qui nous donne la vie, celui qui nous accompagne, qui nous conduit, qui nous prend par la main. Et puis celui qui est aux cieux, il est par définition insaisissable. Bon, mais ça nous fait une différence avec notre Père terrestre, nous avons tous un Père. Mais donc quand on dit notre Père qui est aux cieux, on précise bien de quel Père il s'agit. Voilà. Alors, qui est aux cieux, c'est aussi une manière de nous plonger dans le mystère de l'alliance du Christ. Puisque le Christ est descendu du ciel, on le dit dans le credo, hein, descendu du ciel. Et donc, il est descendu du ciel pour nous y entraîner par sa croix, sa résurrection, son ascension. On pourrait dire que le ciel est notre patrie. Notre patrie, c'est-à-dire la terre du Père, mais plutôt le lieu du Père qui devient le nôtre. Donc, c'est celui vers lequel nous tendons,
Disant où il est, nous disons aussi ce vers quoi nous tendons.
Voilà, c'est une prière qui ouvre vers notre devenir. Hein. Ce que nous sommes appelés à être, c'est des êtres qui partagent la vie de Dieu. C'est ça notre foi chrétienne, le cœur de notre foi. Et je voudrais terminer en citant un autre père de l'Église, hein, qui ont beaucoup commenté le Notre Père. On l'a peut-être moins fait dans les temps modernes, mais il y a beaucoup de perles dans les pères. Non, là, il s'agit de la lettre à Dionysète, qui est une lettre très ancienne, hein, des premiers temps chrétiens. On n'en connaît pas l'auteur, mais il définit un petit peu les chrétiens dans le monde romain. Et voilà ce que l'on y lit. Les chrétiens sont dans la chair, mais ne vivent pas selon la chair. Ils passent leur vie sur terre, mais sont citoyens du ciel.
Eh bien voilà une bonne conclusion pour cette première partie sur le Notre Père qui est aux cieux. Eh bien Didier, j'aurai la joie de vous retrouver bientôt sur Radio Grand Ciel pour la suite du Notre Père et pouvoir comprendre ce que nous sommes en train de prier. Merci beaucoup Didier et bientôt.
Merci.
Sur Radio Grand Ciel.
À bientôt.
خيلاو قوة ثلاثة.